Olivier Babeau, bonjour. Président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous avez publié Le Nouveau Désordre Numérique, comment le digital fait exploser les inégalités chez Bûcher-Chastel. Et Sapiens sort une note justement sur cette deadline de 2035 pour les ventes de voitures thermiques. Thibault Langsat, bonjour.
Bonjour.
Président de Lumines, anciennement Jouve, et spécialiste du traitement des données. Christian Saint-Etienne, bonjour.
Bonjour.
Professeur Ocnam, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission et présent chaque jeudi. On se retrouvera tous ensemble pour la grand-messe de l'économie à Aix-en-Provence les 8, 9 et 10 juillet prochains. Vous avez publié Le libéralisme stratège contre le chaos du monde, chez Odile Jacob. Pas d'impôts en plus, ni de dettes en plus. C'est sérieux, Christian Saint-Etienne?
On n'est pas du tout sur un chemin qui nous emmène dans cette direction, puisque le déficit cette année, en 2022, sera de l'ordre de 6 points de PIB, donc nettement au-dessus de ce qui était annoncé par le gouvernement. Il est vraisemblable qu'on fera 5 points de PIB de déficit public en 2023, donc la dette va forcément continuer d'augmenter. Et le point inquiétant, c'est la remontée des taux d'intérêt. Donc il y a un moment où le gouvernement va devoir prendre des mesures. Alors, pour envoyer un message puissant au marché, pour éviter une augmentation trop forte de l'écart de taux d'intérêt entre la dette française et la dette allemande, ce qui va être clé, c'est la réforme sur les retraites.
Évidemment.
Et je pense que le gouvernement devrait s'entendre avec les Républicains sur ce point pour la faire très rapidement.
Ah, très rapidement. Il a déjà dit, Emmanuel Macron, été 2023, ce qui laisse un petit, politiquement un petit peu de
c'est
temps.
C'est une erreur.
Bon, même question, Thibault Langsat, Olivier Babeau. C'est sérieux de dire ni impôt en plus, ni dette en plus? Il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Alors, on peut considérer qu'il n'y aura pas de dette en plus si la croissance faisait que la dette en pourcentage de PIB se stabilisait, par exemple. Mais enfin, en euros accumulés, elle risque malheureusement de se dégrader.
Allez-y, non, Olivier. Moi, c'est pas du tout vraisemblable.
Hein. C'est pas vraisemblable.
Sauf à imaginer une très très puissante baisse des dépenses. Mais Bruno Le Maire, qui parlait de 50 milliards, maintenant parle plus que de 40 milliards, je crois, à ma connaissance, dont 10 milliards viendraient des retraites, 20 milliards d'un effort sur l'État et 10 milliards des collectivités locales. Et puis, c'est toujours les économies de dépenses annoncées. Bon, c'est un peu comme les régimes. Hein. On essaie de s'y mettre tous les jours, mais enfin, ça marche rarement. Hein. En tout cas, pour l'État, ça a rarement marché. Et puis, ça va pas très loin. On a 60% de dépenses publiques pour pourcentage du PIB. L'OAT à 10 ans français a dépassé les 2%, et on sait que chaque point en plus, sur 10 ans, c'est 30 milliards de plus.
40 même, disait François Mitterrand.
Oui, enfin, c'est 30 à 40 milliards de charge de la dette.
Par année, hein,
Par année, voilà.
Au bout de 10 ans, parce que la maturité fait que l'alourdissement de cette charge prend un peu de temps avant d'être à son rythme de croisière.
Il faut toujours rappeler que, alors, je ne sais pas où on est aujourd'hui sur la charge de la dette, on est autour de 30 milliards par an.
Oui, à peu près.
Hein, c'est ça. C'est-à-dire,
c'est
en fait,
historiquement bas, en fait.
C'est-à-dire plus de 3 fois le budget de la justice chaque année qu'on met uniquement pour le coût de la dette, ça va ne faire qu'augmenter parce que les taux vont augmenter. Et est-ce qu'on doit, on peut espérer, parce qu'on peut tout faire reposer sur une croissance puissante? Non, on avait une croissance molle avant le Covid. On n'a absolument rien fait depuis qui pourrait justifier de réformes profondes, qui pourrait justifier que tout d'un coup on ait une croissance forte. Donc c'est pas ce qui se passera. Donc on va plutôt vers une stagflation. Donc non,
c'est pas sérieux. Mais oui, mais le problème, c'est que ce qu'on vient de dire là, en l'espace de 2-3 minutes, on a parlé des écarts de taux entre la France et l'Allemagne. On a parlé du prix de l'OAT. Ce sont des sujets qui n'intéressent que les économistes et évidemment les techniciens de Bercy qui savent de quoi il s'agit. Mais le débat,
le reste tout le monde quand on.
Mais quand c'est dans votre panier, quand c'est dans votre panier, vous voyez ça tout
le jour. Le jour où vous avez une crise de financement, comme pour les Grecs.
Oui.
Ce jour-là, ça intéresse tout le monde.
Ah ben c'était oui. Il y a le jour effectivement où tout le monde s'intéresse et c'est à la une du Parisien. À ce moment-là, effectivement, ça rentre dans le débat public. Je connais. Oui. Et puis le jour effectivement où pour emprunter pour de l'immobilier, c'est plus 1,5% mais 3,5%.
Disons là, on commence à comprendre que. Souvenons-nous toujours que le tsunami, dans un premier temps, il agrandit la plage.
Ouais. Et dans un deuxième temps.
Et dans un deuxième temps, il tombe dessus. Mais
je ne vais pas vous poser la même question, Thibault, parce que vous allez me faire la même réponse.
Mais c'est pour ça, c'est que c'est un message politique. Il est sûr, au travers de ce qu'il exprime là. Non, il y a la faisabilité
de la mesure. Vous allez voir à l'automne, la politique.
Mais il est sûr, sur ce qu'il exprime là, d'avoir une majorité entre les députés Renaissance et les députés LR et UDI au milieu. Donc là-dessus, il y a un axe de convergence qui permet de pouvoir travailler. C'est un message politique de donner le cap qui est, on va dire, enclenché depuis depuis 5 ans. C'est un programme, enfin, ces mesures de pas d'augmentation d'impôts figurent, on va dire, dans le programme des LR, ont en tout cas été exprimées. Donc c'est un message politique.
Mais il y a un moment où on ne peut pas politiquement, systématiquement dire que 2 et 2 font 10, qu'économiquement, on va dire que 2 et 2 font 4, mais quand c'est de la politique, 2 et 2 font 10.
Nicolas, on est dans l'instantanéité. Il essaie de dégager une majorité pour pouvoir gouverner, pour pouvoir mettre en œuvre des mesures. Donc il envoie un signal. Il est en train de construire sa majorité. Donc il faut qu'il envoie des signaux.
Après, est-ce que le signal est bon ? C'est ça.
Un peu plus près le micro.
Le signal est forcément bon pour pouvoir construire sa majorité. Là, on est dans une séquence extrêmement politique.
Ça signifierait que l'ensemble du Parlement ne comprend rien à rien.
De discuter d'une mesure à moyen long terme dont on peut se dire de façon très logique, et vous l'avez dit, ce n'est pas tenable. Si nous ne faisons pas un certain nombre de réformes permettant de pouvoir corriger le déficit public, mais là, on est dans une séquence purement politique. Et je pense que ça a son importance s'il veut pouvoir gouverner et envoyer les messages nécessaires pour porter les réformes.
Mais quand on dit que ça n'est pas tenable, il faut bien voir les échelles, les montants dont on parlait avec Olivier Babeau. Quand on dit 40 milliards de charges d'intérêts supplémentaires par année dans 10 ans, là, cette fois-ci, on ajoute un budget de l'éducation nationale tous les ans.
Si on est en capacité...
40 milliards, ça paraît normal après 2 ans de Covid.
Sauf si on est en capacité de porter un certain nombre de réformes, et ces réformes qui vont être portées, elles devront être votées au Parlement. Donc, la première réforme, et ce qui a été dit très, très justement, c'est celle des retraites, compte tenu du fait que ça peut peser de façon forte, et puis surtout, c'est un indicateur de réforme. Si on ne le fait pas, ça aliène les 5 années qui suivent. Donc, on est dans une dimension extrêmement politique.
Vous allez voir, Thibault Langsa, de la politique, elle va vous rattraper, vous, chef d'entreprise à l'automne. Quand je le disais, après le sucré, il y aura le salé, qu'on va vous dire que vos 7 milliards de suppression de CVAE, si vous voulez bien nous donner 5 ans pour les étaler, ce serait mieux.
Je pense que la probabilité non nulle. François Hollande avait fait la même chose. Au moment où il y avait la baisse de trajectoire de l'IS, eh bien, on avait vu que c'était descendu par escalier. Finalement, c'est arrivé au taux nécessaire, mais ça a mis un peu plus de temps. Le plus important reste tout de même la trajectoire et de faire en sorte qu'elle soit gravée dans le marbre.
Oui, elle n'est pas bonne, la trajectoire.
Pour le moment,
la trajectoire de dépenses publiques n'est pas bonne du tout.
Ce que vous appelez la trajectoire, c'est la trajectoire des finances publiques.
Oui, d'accord. Mais elle n'est pas bonne.
Elle n'est pas gravée dans le marbre.
Nous avons un écart de taux de dépenses publiques par rapport au PIB. Bon, actuellement, elle est à 59, cette dépense publique, 59% du PIB, mais en trajectoire durable, même si on fait la réforme des retraites, on ne reviendra peut-être pas tout à fait au niveau où ça s'était stabilisé avant la crise, qui était 56 points, mais on sera à 56,5. Quand on est à ce niveau-là, on est 9 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays de la zone euro.
Mais donc, vous connaissez l'argument des défenseurs de la dépense publique, qui vous explique qu'on a fait un choix collectif il y a maintenant pas mal d'années de socialiser une partie des dépenses.
Ça, c'est un truc que je connais depuis 30 ans.
Vous connaissez par cœur
Il y a deux réponses. Un, si la dépense publique crée de la richesse, nous serions très au-dessus de la Suisse ou du Luxembourg. Et la deuxième réponse, c'est l'efficacité de la dépense publique. On aurait 56 points de dépense. On aurait tout le monde qui sort à 18 ans, comme des pics de la Mirandole, connaissant 14 langages informatiques et se débrouillant sur la planète avec zéro taux de chômage, une insécurité nulle. Mais moi, je vote pour 56 points. Le problème, c'est quand vous avez un écart considérable de poids de dépenses publiques et que vous avez de l'insécurité dans la rue. Actuellement, c'est dans les journaux, les touristes américains vont à la Tour Eiffel le soir parce que c'est magnifique à 22h. Ils se font piller par les soi-disant mineurs isolés qui ne sont ni mineurs ni isolés, puisqu'ils attaquent en bande. Donc, vous avez une insécurité considérable, une école qui est à la dérive et qui s'est effondrée dans les classements PISA. Donc, on a un problème d'efficacité massif de la dépense. Et il y a une réorganisation totale de l'action publique dont on parle depuis 30 ans, qui n'arrive pas à se faire.
Clairement. Qui a compris le cap 2027 ? Et vous avez le droit de me répondre non. Parce que vous savez, on a posé. J'ai raconté 2-3 fois cette histoire, mais au soir du second tour, là, Castaner s'est fait piéger par une élue de l'opposition qui lui dit mais en fait, c'est quoi les réformes de Macron pour le nouveau quinquennat ? Il a pas su en donner une. Il voulait pas dire retraite parce que c'est évidemment impopulaire, c'est la seule à laquelle il pensait. Il y en a un qui a une idée du cap, de la vision, de où on va. Moi, franchement, autant je comprenais un peu le macronisme 2017, autant celui de 2022 commence à m'échapper. Hein.
Oui, mais il faut être résolument optimiste et
vous dites ça parce que le dividende salarié fait partie.
Mais pourquoi il faut être optimiste
de la raison.
Quel est le message qui a été envoyé aux Français? Certes, de ne pas donner les pleins pouvoirs, mais globalement, c'est la remise en cause de tout le système. Et si ce message a été adressé au président de la République, il a été adressé à beaucoup d'acteurs, et notamment les corps intermédiaires, les syndicats, les organisations patronales, les forces vives. Et donc, je ne sais pas si cette grande coalition qui n'a pas été prononcée peut fonctionner. Néanmoins, il va y avoir un changement de cap qui va être très fort. Et on va être obligé de mettre autour de la table, et non pas une grande conférence sociale ou des grandes conférences comme on avait l'habitude
non,
de
les
faire.
Grenelles des Grenelles.
On est obligé d'aller chercher du consensus parce qu'il y a une volonté de changement très fort. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire qu'il y aura une capacité de manœuvre qui sera totalement aliénée. Le président de la République est en train de donner un cap extrêmement large parce que toutes les mesures vont devoir être négociées les unes après les autres. Et s'il n'y a pas une remise en cause de l'ensemble, on va dire, des organisations politiques et également des forces vives, en tout cas ce qui relève du champ économique, je pense qu'on n'y arrivera pas. C'est une chance qui est assez intéressante.
Alors, ça Thibault, peut être... Thibault est candidat pour être porte-parole du gouvernement.
Je ne peux pas entendre que le pays va exploser pendant 5 ans. Il a été en partie bloqué avec la crise Covid, avec la crise des retraites, et puis les gilets jaunes qui n'ont pas permis de faire tout ce qu'ils devaient faire. Qu'est-ce qu'on retiendra pendant 10 ans si, in fine, ce quinquennat ne sera à rien? On est obligé de changer de système.
Non, mais on les connaît autour de la table ici, les réformes qu'il faut faire, sauf qu'elles ne sont pas sur la
réforme
des
retraites
de la politique.
Christian, vous l'avez dit très justement il y a quelques secondes, la réforme des retraites, probablement il y aura un consensus. Parce que les parlementaires de droite, et de Renaissance vont trouver un consensus.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il balance ça en 2023. S'il voulait envoyer un message puissant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais par rapport à ce que dit Thibault, c'est compliqué d'interpréter ce qu'a voulu la population. Parce que le tiers qui a voté aux extrêmes, il a voté pour plus de dépenses publiques en réalité. NUPES et le Front National ont voté pour une augmentation de la dépense publique. La bonne nouvelle d'ailleurs, c'est qu'à eux deux, ils font moins du tiers du Parlement. Il faut aussi voir les bonnes nouvelles, c'est qu'ils sont tous significativement en dessous du tiers. Donc, l'autre, donc ça c'est la façon inquiétante d'interpréter le changement que vous évoquez, Nicolas, mais l'autre façon positive, c'est de se dire, interprétons les deux votes de la présidentielle et des législatives comme une volonté millimétrée du peuple. C'est-à-dire, le peuple, c'est exactement ce qu'il veut. Il a envoyé deux messages. Le premier message, c'est on veut pas Marine Le Pen comme président de la République. Et les gens ont voté Macron, c'est pas parce qu'ils voulaient voter Macron, c'est parce qu'ils voulaient pas de Marine Le Pen comme président de la République. Et le deuxième message, c'est on veut pas de Jupiter. Donc, il faut aller vers un compromis à l'allemande. Alors, moi, je défends cette position. D'ailleurs,
on n'a pas la culture du compromis.
Un contrat de gouvernement. Alors, on me répond toujours, il n'y a pas de culture de gouvernement. Alors, je serais d'accord avec Thibault. Je ne vois pas pourquoi la France ne peut pas évoluer. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas aller vers un contrat de gouvernement.
D'accord. Et effectivement, l'une des lignes directrices de cette vision 2027, et ça revient directement aux travaux que vous avez menés, ça pourrait être le quinquennat du nouveau partage du profit, par exemple. Et du nouveau partage du pouvoir à l'Assemblée. Le retour du travail sur le capital, je ne sais pas.
Oui, ça fait combien de temps que les organisations patronales et syndicales n'ont pas fait de grands accords, se sont pas mis d'accord sur des fondamentaux. Je pense qu'il faut retourner sur la complémentaire santé, ça date maintenant d'il y a plus de 15 ans. Quelles sont les grandes avancées qu'ils peuvent faire ensemble? Ce n'est pas les grandes conférences sociales qu'on faisait où chacun arrivait avec des feuilles de route qui étaient déjà établies. Oui. Je pense qu'il y a un vrai terreau qu'il va falloir exprimer et dépasser les clivages.
Pas mal d'essayer d'avoir une vision un petit peu optimiste et une forme de confiance dans ce qui peut arriver, parce que c'est pas vraiment le discours dominant depuis 5 jours. Vous vouliez rajouter quelque chose, Olivier?
Oui, le président, qui est très intelligent, connaît le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, et donc il a très bien compris, il a réussi à rester dans l'ambiguïté jusqu'au bout, y compris jusqu'aux législatives, c'est très très fort. Ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas une idée très très simple de ce qu'il veut faire, très très clair de ce qu'il veut faire. Peut-être pas d'ailleurs lui non plus réellement. Souvent, prendre le pouvoir, garder le pouvoir, ça suffit à lui-même comme objectif.
C'est ce qu'ont fait Mitterrand et Chirac.
Et beaucoup de gens l'ont fait avant lui, donc ce n'est pas plus... Non, le plus inquiétant, c'est même pas tellement l'absence de réforme claire qui serait la conséquence de ce qui est très gênant pour moi, c'est qu'il y a plus de récit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de capacité. Les extrêmes ont des récits. Les deux extrêmes ont des récits très clairs.
Et même des programmes très clairs.
Voilà, des programmes très clairs qu'on peut critiquer, on s'en prive pas. Mais il y a un récit sur la place de la France, comment demain la France va tenir sa place dans le monde, c'est quoi effectivement le contrat collectif qu'on va proposer, quelle est notre compréhension de l'économie, peut-être même aussi de la concurrence. Il y avait un message assez positif dans Macron 1, hein, au tout départ. Il y avait un peu cette idée, allez, effectivement, Startup Nation, on va tous premier de cordée, on va vous entraîner, etc. Il n'y a plus rien, c'est fini, parce que les gilets jaunes ont fait qu'on n'ose plus parler de ça. Et donc, en réalité, maintenant, on perd complètement le bénéfice de... On n'a plus la capacité à imposer une histoire qui fasse que derrière, on justifie les réformes. Donc, est-ce qu'on a besoin de consensus aujourd'hui ? Non, on a besoin de réformes extrêmement profondes. Comme tu l'as dit, compte tenu de l'état de l'éducation, par exemple, qui est absolument dramatique et qui prépare derrière de grandes déconvenues avec un manque de talent et le fait qu'on va de plus en plus avoir un chômage structurel qu'on n'arrivera pas à réduire, avec des dépenses publiques qui sont totalement délirantes, un système qui est profondément déséquilibré et 60% du PIB, encore une fois, alors que tous les services publics sont en mauvais état, il y a un problème profond. Donc, on ne va pas s'arranger sur 2-3 trucs. Alors, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une grande réforme et un grand accord, mais je ne sais pas si, par exemple, sur un truc génial, ce serait enfin mettre de la capitalisation dans les retraites pour que les pauvres en bénéficient comme les riches aujourd'hui en bénéficient. Mais jamais on y arrivera, parce que intellectuellement, on est framé dans un truc, dans un discours qui est celui des extrêmes pour l'instant. Voilà.
C'est vrai qu'il n'y a plus de récit. Et le récit sur quelle est la France que nous voulons collectivement et les services publics que nous voulons collectivement, des choses très concrètes, permettraient peut-être justement d'avancer. Vous voulez réagir, Thibault?
Et je vous trouve extrêmement dur.
Et dur avec qui, avec quoi?
Non, mais il n'y a pas de récit. Regardez les programmes qui ont été mis en avant, qu'ils ne soient pas audibles. Ça, c'est un vrai sujet. Mais les choses ont été dites pendant la campagne. Que les programmes de l'EFI, NUPS ou du Front National, qui sont très tranchés, permettent une grande compréhension, c'est le cas. Mais les programmes qui ont été mis en avant, quand bien même par Valérie Pécresse ou par la LREM, sont des programmes assez bien charpentés, construits. Ce qui est compliqué, c'est de trouver l'histoire, parce que c'est très pluriel, c'est très responsable. Alors, ça parle pas. Mais oui, c'est très facile de mettre en avant le programme de l'ANUPS.
Il y en avait un, mais
très tranché.
De l'AREM.
On parle des 200 milliards. Parce que, voilà, ça donne un axe. C'est la difficulté de reconstruire un dialogue, mais les éléments, ils sont pesés, ils ont été mis en avant de façon séquencée. Le problème, c'est qu'ils ne résonnent pas aux oreilles des Français. Ça, c'est un vrai sujet.
Oui, Christian, on a 2 minutes 20, on marque une pause, après on parlera de la voiture thermique.
Je voulais faire, par rapport à ce qu'on est en train de dire tous les trois, là, une distinction entre un compromis béquille et un contrat de gouvernement. Alors, tous les partis, notamment les Républicains, ont dit on refuse d'être une béquille du gouvernement et donc de faire un compromis avec le gouvernement. Et donc, ils ont dit on votera peut-être chaque loi si ça me plaît. Très bien. Donc ça, c'est les combines de la 4e République. Un contrat de gouvernement à l'allemande, pour les auditeurs, téléspectateurs, c'est très important de dire en quoi ça consiste. C'est un contrat qu'on négocie, parfois en Allemagne, 100 jours.
Je sais.
Et souvent 30 à 40 jours, où on va dire qu'est-ce qu'on va faire pour l'éducation, qu'est-ce qu'on va faire pour les collectivités locales, qu'est-ce qu'on va faire pour le droit de la famille, qu'est-ce qu'on va faire pour l'insécurité. Donc avec, à chaque fois, un chapitre qui détaille les mesures, qui peut donner les principaux projets de loi. Et donc, c'est un vrai contrat. C'est un contrat donc dans lequel, par exemple, les Républicains pourraient peser très fortement sur la sécurité, le développement de l'investissement productif, ainsi de suite. Donc, en refusant d'entrer dans une démarche de contrat de gouvernement qui obligerait l'AREM à préciser ce qu'elle veut faire, je pense que les Républicains prennent un risque qui est au moins aussi grand que celui qu'on soit face à un gouvernement qui ne peut pas conduire les affaires du pays. Donc, j'espère qu'il y aura une compréhension de ce qu'est un contrat de gouvernement, parce que au fond, qu'est-ce qu'ils disent les Républicains? Si on s'allie avec Macron, comme il n'est pas aimé, on va disparaître la prochaine fois. Mais, alors, pour une fois, je suis d'accord avec quelques ténors des Républicains sur le thème. Ça fait 15 ans que les Républicains ne sont pas au pouvoir. S'ils ne redémontrent pas leur capacité à gouverner, je pense qu'ils seront complètement éliminés la prochaine fois.
J'entendais ce matin Bruno Retailleau, le chef du groupe Les Républicains au Sénat,
vraisemblablement l'inverse,
qui disait on fera du cas par cas. Voilà.
Oui, ben je pense que le cas par cas.
Xavier Bertrand a dit qu'il ne bloquerait pas.
Oui, oui. Voilà. Il faut aller voir ce qui est.
Oui, mais du coup, ils n'auront pas le bénéfice du contrat de gouvernement dans lequel ils auraient fait passer leurs idées. C'est ça que je vais dire.